on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines, ravie de vous retrouver ce vendredi. Généralement, le vendredi, vous le savez, c'est éducation. Et ce vendredi, nous ne dérogeons pas à la règle. Notre sujet éducation sera consacré à un phénomène qui dit bien notre époque de mélange et du voyage toujours plus loin, toujours plus vite. En France, 13 millions de personnes, soit une personne sur cinq, sont bilingues. Et les organisateurs du salon Expo Langue, au pluriel, ont bien compris le phénomène qui, chaque année, propose rencontres, débats, animations autour du plurilinguisme et sa pratique à travers le travail, les voyages, l'apprentissage ou l'expression. Expo Langue d'ailleurs, c'est jusqu'à demain 18h, Porte de Versailles, et le parrain de cette 33e édition est Jack Lang. Qu'en est-il des enfants bilingues? Comment les accompagner dans cet apprentissage spécifique? Spécifique en quoi d'ailleurs? Et puis, il existe plusieurs formes de bilinguisme. L'inné, quand on est de deux parents qui parlent de langues différentes, et l'acquis, celui qui vient d'une volonté parentale. Et d'ailleurs, bilingue, pourquoi? Toutes ces questions et toutes les vôtres, les voisins, nous pourrons les poser à nos deux invités. Barbara, avec nous en studio, Barbara Abdelila Bauer, psychosociologue et linguiste, fondatrice de l'association Café Bilingue, qui est un site très, très bien fait et très informatif, cafébilingue.com. C'est un centre de formation et d'information sur le bilinguisme. Bonjour.
Bonjour.
Et nous serons en ligne avec François Grosjean. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à l'Université de Neuchâtel en Suisse, vous êtes franco-suisse et auteur de « Parler plusieurs langues » chez Albin Michel. Vous êtes ancien directeur du laboratoire de traitement du langage et de la parole, un laboratoire que vous avez créé et dirigé pendant 20 ans. Et vous travaillez sur les questions du bilinguisme depuis plus de 40 ans. J'oubliais de préciser que Barbara Abdelila Bauer, notre invitée, est également auteur d'un livre « Le défi des enfants bilingues, grandir et vivre en parlant plusieurs langues », publié aux excellentes éditions de La Découverte. Sur Facebook, les voisins, vous réagissez déjà nombreux. Jimmy, en République Dominicaine, nous dit « Moi, je suis trilingue. Je parle français, espagnol et créole. Mais à vrai dire, j'ai eu un mal fou à maîtriser le français, car j'ai quitté Haïti pour aller m'installer en République Dominicaine. Du coup, à la maison, on ne parle que le créole et l'espagnol. Le français était devenu une langue perdue, dans l'air, mais avec l'aide de RFI et quelques potes à moi, je suis parvenue à récupérer ma fluidité et mon aisance en parlant la langue de Voltaire. » Voilà pour Jimmy. Evelyne, quant à elle, en Haïti, nous dit « Ma petite fille est âgée de 23 mois, elle est en contact avec trois langues, un peu comme Jimmy, le créole haïtien, le français et l'anglais. Elle vit aux USA et elle a déjà beaucoup de mots français et un peu d'anglais dans son vocabulaire. Mais elle ne fait pas encore de phrases, le français prédomine. Qu'en pensez-vous qu'elle parlera couramment et dans laquelle de ces trois langues? Quels conseils donneriez-vous aux adultes qui l'entourent? N'ayez crainte, Evelyne, nous poserons vos questions à nos deux spécialistes. François, lui, toujours en Haïti, nous dit « Parler deux langues facilite la communication avec un plus grand nombre de personnes, permet d'accéder à deux cultures, deux littératures, à deux fois plus d'informations. Le bilinguisme ouvre incontestablement l'horizon et simplifie l'apprentissage d'idiomes. Cela ne signifie pas qu'un enfant bilingue est plus intelligent que les autres, on sait seulement qu'il développe des capacités métalinguistiques plus importantes, c'est-à-dire capacité à analyser et à réfléchir sur la langue, et qu'il apprend souvent à lire plutôt qu'un enfant monolingue. Et enfin, Jora nous dit « Est-il possible que l'enfant apprenne plus de deux langues et que ça ne l'affecte pas ?» Ces questions, évidemment, nous les poserons à nos invités. Vous pouvez aussi nous appeler, les voisins. Êtes-vous bilingue? Élevez-vous des enfants bilingues? Quels avantages ou inconvénients voyez-vous au bilinguisme? Dites-nous tout. 33 1 84 22 71 71. Je commence avec vous, Dominique Grosjean. Déjà une, François Grosjean. Déjà une définition. Quand considère-t-on qu'un enfant est bilingue? Pouvez-vous nous donner une définition? Elle est scientifique.
Écoutez, pendant longtemps, on mettait comme facteur principal, le facteur principal en avant de la connaissance. Et ce facteur est difficile à mesurer. À quelle connaissance faut-il avoir pour devenir bilingue ou pour être considéré comme bilingue? Et de plus en plus, on met l'accent plutôt sur l'utilisation régulière de deux ou de plusieurs langues. Et donc, si un enfant, quel que soit son âge, se sert régulièrement de deux ou de plusieurs langues, cet enfant est considéré comme bilingue.
Donc, vous n'allez pas dans le sens de ceux qui disent que si c'est jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 8 ans, pour vous, c'est...
C'est différent, n'est-ce pas? Ça, c'est, ce sont des étiquettes bilinguisme simultané par rapport à bilinguisme successif. Mais toutes ces personnes sont bilingues, ou tous ces enfants sont bilingues, n'est-ce pas?
Mmh. Alors, y a-t-il une différence, justement, vous parliez de bilinguisme simultané, entre autres, y a-t-il une différence dans l'apprentissage selon que l'enfant est bilingue inné ou acquis?
Forcément, il y a déjà le fait que si un enfant, et en fait ça concerne la majorité des enfants, n'est-ce pas? Mmh. Si un enfant acquiert ses langues successivement, il y aura d'abord une première langue, et ensuite la deuxième sera acquise, peut-être une troisième, une quatrième, en se basant en partie sur la première, n'est-ce pas? Donc oui. On va se servir de la première comme aide au départ pour acquérir cette deuxième langue. Par contre, le bilinguisme simultané, qui, rappelons-nous, c'est très important à dire, est vraiment minoritaire. Il y a des tas de livres écrits sur le bilinguisme simultané, mais ça représente entre 15 à 20%. À ce moment-là, les deux langues sont acquises en même temps.
Est-ce que ce n'est pas un phénomène qui est en pleine explosion avec l'explosion aussi des unions mixtes et les voyages, ce bilinguisme simultané?
Oui, hier j'étais à la radio suisse et on m'a posé la même question. On m'a dit les langues et le bilinguisme. Et j'ai dit écoutez, les langues malheureusement vont peu à peu se réduire en nombre. On est autour de 7000 ou 7100. Par contre, le bilinguisme va forcément croître parce que nous aurons besoin d'une langue ou de deux à l'intérieur de notre vie personnelle, en famille, dans la société. Mais ensuite, souvent, il faut une langue nationale. Si elle est différente des langues dans la famille et dans la communauté. Et ensuite, il faut souvent une langue internationale qui n'a pas besoin du tout d'être anglais. Hein. Ça peut être le français qui sert de langue de communication, le russe dans certaines zones du monde, l'espagnol, bien sûr, en Amérique du Sud et dans d'autres endroits.
Barbara Abdelila Bauer, l'idée est belle sur le papier, celle d'un enfant qui, comme ça, parle plusieurs langues, donc il est sur plusieurs cultures. Mais justement, parler une langue, c'est aussi vivre une culture. Comment éviter le tiraillement? Et est-il possible d'éviter le tiraillement?
Grandir avec deux langues veut parfois dire grandir avec deux cultures. Je dirais pas avec deux cultures. Un enfant qui grandit donc dans un couple mixte, ce qui est effectivement un cas plus rare que l'enfant qui grandit jusqu'à l'âge de 3 ans avec une langue et qui entre à l'école maternelle en France, puisqu'on est en France, et qui acquiert donc le français comme langue seconde, si vous voulez. Mais cet enfant-là, il a des compétences culturelles élargies éventuellement, puisque il y aura donc peut-être là un peu là les pratiques culturelles de la maman, les pratiques culturelles du papa qui sont différents. Et parfois, effectivement, il peut y avoir quand cet enfant grandit, toujours dans notre contexte monolingue en France, hein, oui. Officiellement monolingue, en fonction des langues qui sont en contact et en fonction des cultures qui vont avec ces langues, il peut y avoir un tiraillement, il peut y avoir une sorte de conflit, il peut y avoir un ressenti un certain malaise chez cet enfant-là.
Vous dites il peut, donc ça n'est pas systématique, donc ça peut être évité.
Disons qu'il est plus facile d'être fier de son bilinguisme, de ses langues, quand on parle français et anglais. Mm-hmm. N'est-ce pas? Ou peut-être encore l'allemand ou l'espagnol.
D'accord.
Il est plus difficile d'assumer un bilinguisme français-arabe, français-soninké, tout simplement français d'ailleurs en France, c'est vraiment notre particularité, ou français-créole. Imaginez parler de bilinguisme avec le créole, personne ne vous dira, à La Réunion par exemple, personne ne vous dira les enfants sont bilingues. Mm-hmm. On vous dit les enfants ne parlent pas français, ils parlent...
Et c'est un tort.
Ah ben bien sûr c'est un tort, oui.
Voyons ce qu'en pensent nos auditeurs. Nous sommes en ligne avec Boris qui nous appelle de Detroit. Bonjour Boris.
Oui, bonjour Anastasie.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Alors vous êtes un parent que la question intéresse particulièrement. Dites-nous tout. Vous avez un fils qui est encore très jeune, qui a 2 ans.
Oui, j'ai un petit garçon, il a au moins 2 ans. Donc... il fait face à deux situations.
Oui.
Que moi, je suis d'origine francophone, je suis gabonais d'origine.
Oui.
Et sa mère est américaine. Et autour de lui, il n'y a que l'anglais. Donc, et moi, j'aimerais vraiment qu'il parle un peu, en fait, qu'il comprenne français. Bon, je parle français avec lui régulièrement, pratiquement tout le temps. Mais je ne sais pas Est-ce que ce sera suffisant?
Alors, c'est très intéressant. Il y a une chose, pardon, qui est intéressante déjà, Boris, c'est que vous dites que vous êtes d'origine gabonaise et vous dites que vous êtes d'origine francophone. J'imagine que vous, ça veut dire que vous ne parlez qu'en français à votre fils et pas dans une des langues gabonaises?
Oui, je parle avec lui en français, mais également, souvent, je peux parler de l'enfant parce que je suis franc. Donc,
d'accord.
Je me demande est-ce que ça va marcher.
Alors, qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce que vous voudriez, vous?
Je voudrais qu'il me comprenne, c'est-à-dire lorsque je parle avec lui en français. Et d'ailleurs, il comprend régulièrement, parce que je me rappelle, ça fait pas un mois, je l'ai amené chez le pédiatre, et il était avec moi, et je lui ai demandé, tu peux t'asseoir à côté de moi, juste pour laisser que l'infirmière puisse passer. Il est venu s'asseoir à côté de moi, et l'infirmière qui était là, était surprise, et elle m'a demandé, mais sur quelle langue vous avez... Vous avez parlé quelle langue? Je dis non, je parle français, il comprend. Mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, parce que autour de lui, il y a que l'anglais. Donc je me demande...
Alors là, vous êtes dans un cas de rapport de force, il y a la langue forte, la langue faible, et qu'est-ce que vous pouvez conseiller, Barbara?
C'est vrai que c'est une situation un peu difficile quand on est un papa et quand c'est le papa qui transmet une langue minoritaire par rapport à tout le reste de l'environnement, parce qu'en général les pères travaillent plus que les mères, enfin en général, je ne sais pas comment ça se passe à Detroit, mais donc quantitativement, le père est moins présent avec un jeune enfant que la mère. Donc, forcément, il y a moins d'apport langagier
et moins
en français,
d'exposition à la
moins
langue.
D'exposition à la langue qu'à l'anglais. En plus, c'est la langue dominante. Alors, vous avez très bien dit que votre enfant comprend, et ça commence par la compréhension d'ailleurs, et il est en train d'entrer dans la langue. Il n'y a aucune raison qu'il ne parle pas un jour. Disons, il n'y a aucune raison qu'il devienne bilingue franco-allemand. Anglais, mais éventuellement il ne parlera pas français, mais il sera bilingue quand même. On parle de bilinguisme réceptif, c'est-à-dire il va tout comprendre, mais il vous répondra en anglais. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui parler un maximum, le plus possible. Même s'il est petit, vous lui parlez. L'important, c'est parler avec son enfant, d'accord? Lire des petits livres, raconter des histoires, chanter des chansons, des comptines.
Entretenir cette exposition.
Enrichir. Et c'est vrai, c'est un travail quand on est un père. Éventuellement, à Detroit, vous pouvez peut-être trouver d'autres francophones pour élargir un peu le cercle. Pourquoi pas une babysitter qui lui parlerait aussi le français. Disons, l'important serait de d'enrichir cette langue et de renforcer son exposition. Voilà.
Voilà. Voilà, Boris. Vous avez quelques D'accord. éléments. Vous pouvez aller à la librairie la plus proche, là, en raccrochant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci pour votre question, pour votre confiance, et have a good day in Detroit.
Thank you.
Au revoir, Brice. Les enfants bilingues, comment les entourer, comment les éduquer, comment entretenir, développer ce qui aujourd'hui est un atout qui paraît absolument indispensable pour communiquer dans le monde qui est le nôtre? Eh bien, c'est le sujet du jour, les voisins, 33 84 22 71 71, pour vos témoignages. En attendant, on va voler, en anglais ça se dit fly, comme avec Rory, c'est un artiste du sud des États-Unis et il est ici en duo avec Malik Shakur.
I'm afraid I'll die, and you can look at me and never wonder why, because I'm brown and young and my hair, it is nappy. And if I spend a day outside, just doing normal things inside my hometown, and be the wrong place, wrong time, I could be dying. And yes, the holder of the gun, it could be him or her, could be black or white, but when the deed is done, it's done. We have a killer. And in the rising of the sun, hope you remember me with positivity, 'cause there's a target on my back, time's only wasting. And yes, I hope one day we'll fly above the things that make humanity divide. Oh yes, I hope one day we'll fly. I pray the kids I have see better days than mine. Oh yes, I hope one day we'll fly. And for the ones that died, for the ones that died, I hope you fly.
Fly, c'était Rory sur RFI dans 7 milliards de voisins. Nous sommes toujours avec nos deux invités, François Grosjean au téléphone depuis Neuchâtel en Suisse et Barbara Abdelila Bauer en studio avec nous à Ici les Moulineaux. Le sujet du jour, ce sont les enfants bilingues, comment les accompagner, comment faire en sorte d'entretenir cette belle flamme des langues en eux. Et le moins que l'on puisse dire, les voisins, c'est que le sujet vous passionne, le standard est pris d'assaut quasiment. Nous sommes en ligne avec Stéphane, qui lui est en région Rhône-Alpes, c'est dans le sud-est de la France. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Anastasie. Je voudrais intervenir à propos de mon cas.
Vous êtes la bienvenue.
Je voudrais parler du cas du Cameroun. Je suis originaire du Cameroun.
Oui.
Alors, déjà au Cameroun, nous avons environ 300 langues maternelles. Et
vous voulez dire, il y a 300 langues vernaculaires, enfin 300 langues locales.
Oui, locales, pas vernaculaires, c'est différent.
Pas vernaculaires, absolument.
Voilà, Lingala ou alors c'est des langues vernaculaires.
Absolument.
Mais voilà, c'est pas des langues vernaculaires, mais c'est des langues que nous considérons comme langues maternelles, dont au sein des familles en fait. On a environ 300. Et dans ce contexte, nous avons le français et l'anglais qui font office de langue nationale.
Oui.
Donc, déjà, pour tout Camerounais né au Cameroun et en grandi au Cameroun, ce dernier est amené à s'exprimer soit en anglais, soit en français, tout en sachant que le français et l'anglais sont imposés dans le cadre académique, c'est-à-dire à l'école. Mais je voudrais parler précisément de mon expérience. Je n'ai pas souvenance d'avoir appris le français ni l'anglais, ni ma langue maternelle d'ailleurs, qui est le Bassa.
Vous n'avez pas un souvenir d'apprentissage. C'est venu naturellement, finalement.
Non, oui, c'est-à-dire que j'avais un papa qui me parlait français à la maison, une maman qui me parlait Bassa, et une de nous qui me parlait français, comme mon papa. Et une grand-mère avec laquelle je conversais en Bassa.
D'accord.
Et des voisins en face qui étaient anglophones. Donc, depuis l'âge de... C'est-à-dire que c'est des langues que j'ai apprises avant d'aller à l'école. Le Bassa, je l'ai appris en parlant avec ma mère et ma grand-mère.
Donc, vous êtes arrivé à l'école, Stéphane, en sachant parler Bassa et français?
Et anglais.
Mais avec qui, auprès de qui avez-vous appris l'anglais?
L'anglais, c'est avec les voisins, les enfants des
D'accord.
voisins avec lesquels je jouais, qui sont camerounais, mais anglophones.
D'accord, très bien.
Et voilà. Et je n'avais pas vraiment du... Quand j'ai suivi le thème, l'apprentissage ou autre, je me suis posé la question, à quel moment j'ai appris le français, l'anglais,
et vous n'avez pas
de souvenir. Non, aucunement, parce que j'avais des interlocuteurs avec lesquels je conversais dans des langues qui étaient différentes. Ma grand-mère en Bassa, mon papa en français,
Voilà. D'accord.
Par contre, j'avais remarqué que j'avais certains camarades qui ne vivaient pas la même expérience que moi. C'est-à-dire que dans le cercle familial, on ne parlait que la langue maternelle. Et j'avais remarqué que ces derniers avaient parfois du mal à s'exprimer en français, parce qu'au Cameroun, quand même, les gens s'expriment en français, quel que soit, qu'ils soient allés à l'école ou pas.
D'accord.
Mais ces derniers, parfois, cherchaient des mots.
Mmh. Ce qui n'a pas été votre cas.
Non, c'est-à-dire que le bassin c'était un réflexe, le français c'était un réflexe, l'anglais c'était un réflexe.
Bon, vous êtes parfaitement trilingue et merci de nous avoir exposé la manière dont vous l'êtes devenu. François Grosjean, nous allons devoir nous quitter bientôt parce que le Flash Info arrive, mais j'aimerais beaucoup avoir votre réaction quant à cet apprentissage après le Flash, sur l'apprentissage que nous décrit Stéphane, 7 milliards de voisins et leurs petits bilingues. Le bilinguisme des enfants est notre sujet de discussion, les voisins aujourd'hui, et puisque c'est notre sujet, appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous le vivez, 33 1 84 22 71 71. Rendez-vous dans 3 minutes avec François Grosjean et Barbara Abdelila Bauer.
Internet. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
On est ensemble pour parler de l'éducation bilingue de nos petits. Comment les accompagner pour explorer le sujet avec nous. En studio, Barbara Abdelila Bauer, qui est linguiste et psychosociologue et auteur de Le défi des enfants bilingues aux éditions de La Découverte, grandir et vivre en parlant plusieurs langues. Et nous sommes en ligne avec François Grosjean, parler plusieurs langues, le monde des bilingues. C'est le titre de son dernier ouvrage, paru aux éditions éditions Albin Michel. François Grosjean travaille sur les questions de bilinguisme depuis 40 ans, plus de 40 ans. Et avant le flash, François Grosjean, nous étions avec un auditeur, Stéphane, qui nous appelait de Rhône-Alpes et qui nous expliquait la manière dont il a appris à parler plusieurs langues. Les deux, il est trilingue aujourd'hui et il nous expliquait que de manière assez naturelle, eh bien, il y avait la langue de papa, la langue de maman, la langue pour jouer. Au fond, c'est l'apprentissage idéal, non ?
Ce qui est intéressant, c'est que dans les facteurs qui font qu'un enfant devienne bilingue ou pas, Madame Barbara Abdelilah-Bauer en a mentionné plusieurs, oui. Qui sont très importants, un apport linguistique, un apport conséquent, un apport varié, une famille qui soutient, qui fait parler l'enfant. J'aimerais en ajouter un qui explique en fait ce témoignage tout à fait intéressant, à savoir le besoin que ressent l'enfant d'utiliser telle langue ou pas. Et manifestement, dans le cas de Stéphane, il y avait un besoin qu'il ressentait inconsciemment, il a très bien dit, inconsciemment, de parler sa langue de sa région, mais également anglais et français, afin de communiquer, participer,
oui, c'est
jouer.
Ça. Mais il y a toujours une origine affective à son apprentissage. Finalement, il y a la nounou, il y a papa, il y a maman, la grand-mère et les copains pour jouer.
Voilà. Et donc, il y a des cas comme ça dans la littérature sur le bilinguisme où les enfants peuvent être quadrilingues, quintilingues, tout simplement parce que dans leur vie de tous les jours, ils ont ce besoin de communiquer dans ces différentes langues et ils le font, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il a mentionné ses autres enfants qui n'avaient pas ce même trilinguisme dès la naissance, probablement, si on devait regarder leur histoire personnelle, il y avait probablement moins de besoins pour ces autres langues. Donc, le mot « besoin », avant, il y a quelques années, on parlait de motivation, mais pour un enfant, c'est vraiment un besoin. Si l'enfant ressent le besoin d'utiliser une langue, il le fera et tout se passera très bien. Donc, c'est vraiment le mot magique que j'essaie de mettre dans la tête des différentes personnes.
Il faudrait peut-être aussi le mettre dans la tête des pédagogues, qu'il s'agisse des parents, comme des enseignants. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose de partir pour l'Argentine. Bonjour Jean-Louis Buchet.
Bonjour Anastasie.
Vous êtes notre correspondant à Buenos Aires, mais peut-être préféreriez-vous que je vous dise « Hola Juan Luis ».
Hola Anastasie, ¿qué tal ? C'est comme vous voulez, mais il est vrai qu'ici, je suis plutôt connu comme Juan Luis, au point tout court. Né à Buenos Aires de père français et de mère argentine, je suis bien Juan Luis et non Jean-Louis sur ma carte d'identité et tous mes papiers officiels argentins. Ah. Mais ce n'est peut-être pas le plus important. Le fait est que j'ai eu la chance de naître et de grandir avec deux langues maternelles, le français et l'espagnol d'Argentine. C'est pour moi un grand bonheur parce que l'intimité avec chacune de ces langues est aussi l'intimité avec une culture, une psychologie, une manière d'être. Je suis français quand je vois un film d'Éric Rohmer, argentin quand je lis un roman de Julio Cortázar. Français avec les français, argentin entre argentins, je peux aussi être l'autre, c'est-à-dire prendre des distances,
bien
être
sûr.
Argentin parmi les français et vice-versa. C'est pourquoi, plutôt que de me présenter comme binational, je me dis double, argentin et français, et loin de me sentir tiraillé, c'est avec un égal plaisir que je pense, parle et écris dans mes deux langues maternelles.
D'accord, donc vous n'êtes pas 50-50, vous êtes 100% français et 100% argentin. Mais Jean-Louis, est-ce qu'il n'y a pas quand même une langue qui prend le pas sur l'autre à un moment donné ?
Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes bilingues, par moment ou de manière définitive, mais pas pour moi. Bien sûr, vivant à Buenos Aires, je parle plus souvent espagnol que français, et quand je vais à Paris, comme je le fais une fois par an, il me faut 24 ou 48 heures pour m'imprégner des dernières tendances de la langue parlée. Après, ça va tout seul, je suis parisien de chez parisien. Il faut dire aussi que je travaille dans les deux langues. Le même jour, je peux avoir à faire pour RFI un papier en français et un en espagnol sur le même sujet. Il y a un va-et-vient permanent où la cerise sur le gâteau n'est pas la cereza sobre la torta, mais la frutilla del postre, c'est-à-dire la fraise du dessert. Ce n'est pas pareil, mais c'est bien le même concept.
Bon, vous l'avez bien dit, pour vous le bilinguisme est une chance. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Est-ce que vous avez un secret?
Écoutez, je ne peux parler que de mon expérience personnelle. Oui. Chacun de mes parents parlait la langue de l'autre, cela a sans doute aidé. Et mon père, dans un environnement argentin dominant, tenait à ce que mes frères et moi parlions français avec lui. Avec ma mère et en ville, on parlait évidemment en espagnol. Mais chaque langue avait sa place et son espace. Jamais de fragnol. En France, où mes filles sont nées, je leur ai parlé en espagnol dès la naissance. Elles comprenaient tout, même si elles me répondaient en français. Aujourd'hui, en Argentine, elles se sentent doubles, comme moi.
Merci beaucoup Juan Luis et belle journée à vous à Buenos Aires.
Adios, Anastasie.
Adios. Alors, je vais faire réagir d'abord François Grosjean. Le maître mot, ce que je retiens du témoignage, du beau témoignage de Juan Luis, c'est la compartimentation, l'organisation. Tout à l'heure, Barbara Abdelila Bauer parlait de soutien. On a l'impression comme ça que le fait de parler plusieurs langues peut être quelque chose d'assez évident, surtout quand on a deux parents de langues et de cultures différentes. Mais au fond, ce qu'on comprend avec Juan Luis, c'est qu'il faut vraiment que ce soit pensé, voulu par les parents, compartimenté quasiment.
Oui, les parents doivent absolument travailler la question. Je parle maintenant de projets linguistiques.
Oui,
il faudrait que les parents puissent mettre sur papier, en discuter ensemble, mettre sur papier un projet linguistique pour bien comprendre à quel moment, d'abord, une deuxième langue va être acquise, si ce n'est pas simultanément. Rappelons-nous qu'on peut devenir bilingue dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence. Moi, je ne suis devenu bilingue qu'à 8 ans. Donc, vous voyez, c'est possible et je m'exprime aussi et bien, j'espère, en anglais qu'en français. Donc il faut parler du début de la deuxième langue, mais également comment cette deuxième langue va être appuyée, comment on va faire pour créer ce que j'appelle des pôles monolingues, où telle langue est utilisée, telle autre est utilisée. Et monsieur a bien mentionné l'approche un parent, une langue, qui est une approche très utile, qui a peut-être quelques dangers après un petit moment, parce que la langue la plus faible va souffrir, n'est-ce pas, lorsque la langue extérieure, qui est peut-être une des langues de la maison, viendra de plus en plus vers l'intérieur. Mmh. C'est pour ça que je prône souvent une langue à la maison, une langue à l'extérieur. Là, c'est plus clair pour enfants, il y a plus d'apports linguistiques, mais bref, il y a différentes approches. Mais ce qui est important, c'est que les parents lisent le livre de Madame Abdelila Bauer, ou le mien, pour, non pas c'est pas pour faire de la vente de nos livres, mais c'est simplement pour éviter plus tard des pièges ou plus tard des frustrations.
Alors pour ceux qui n'auront pas accès à vos, pour ceux qui n'auront pas accès à vos livres, quels sont les pièges que vous pourriez nous indiquer là?
Ben, un des pièges, c'est simplement, et Mme Abdelila Bauer l'a bien mentionné, est-ce qu'il y a suffisamment de besoins pour la langue, ou est-ce que le parent, en fait, est bilingue, et l'enfant se dit, on est en train de parler anglais et allemand, par exemple, mais je sais que maman, qui me parle allemand, parle anglais avec papa, j'habite en Angleterre, donc l'anglais est plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet enfant, peu à peu, se dit, j'ai pas vraiment besoin de l'allemand. Alors là, il va falloir travailler pour qu'il y ait suffisamment d'apport de l'allemand, et surtout, si possible, créer des environnements, une crèche, un petit groupe d'enfants qui sont germanophones, bref, il y a toute une série de petites choses qu'on peut faire pour rendre l'allemand tout à fait naturel et nécessaire.
D'accord. Le besoin et la réflexion parentale sur ce besoin et savoir l'articuler autour aussi de la personnalité de l'enfant, Barbara Abdelila Bauer.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, ce qui est important aussi, ce que Juan Luis a dit, dans son cas, les parents parlaient chacun la langue de l'autre. Et ça aussi, ça rejoint cette idée de construire un projet d'éducation bilingue, comme disait François Grosjean, en famille. Il faut absolument que la transmission d'une langue maternelle, d'une langue minoritaire, soit soutenue par le conjoint, dans la famille. Je rencontre souvent des parents où, bon, la maman parle russe ou espagnol ou autre, et puis, mais le papa qui est français ne parle pas cette langue.
Ne maîtrise pas cette langue.
Ne la maîtrise pas et ça ne l'intéresse pas et il n'est pas forcément d'accord, voyez. Donc, à ce moment-là, la mère se sent complètement isolée. Très souvent, ces mères ne parlent que leur langue en secret quand elles sont seules avec l'enfant. Autrement, elles parlent français et là, ce bilinguisme ne va pas se construire. Donc une des conditions, c'est vraiment que les deux
soient le fruit d'un accord parental.
Que ce soit, effectivement, il est préférable de se mettre d'accord déjà. À la limite, déjà, se questionner sur les langues, notre rapport aux langues avant d'avoir un enfant, avant qu'il naisse, et discuter un peu sur ce qu'on veut, en fin de compte, quels sont nos projets, est-ce qu'on a envie de transmettre. Peut-être qu'on n'a pas envie de transmettre notre langue, c'est tout à fait possible aussi. Mais il vaut mieux quand même, pour éviter les conflits après, il vaut mieux le faire avant.
Donc on comprend bien, à vous écouter l'un et l'autre, Barbara Abdelila Bauer et François Grosjean, que l'enfant est un projet, mais la langue, les langues qu'il va parler également. Allons au standard de 7 milliards de voisins, toujours autant de voisins qui ont des questions à vous poser ou qui ont des témoignages à transmettre, comme Brunetti qui, lui, nous appelle depuis Paris. Bonjour.
Oui, bonjour Anastasie.
Vous avez une question à poser.
Bon, j'ai une question à poser, c'est-à-dire que donc moi je suis italien, mon fils est italien, sa femme est française. Donc le petit-fils, on lui a toujours parlé en italien, moi et mon fils, mais à un certain moment on s'est aperçu que l'enfant il bégayait, mais bégayait de plus en plus. Moi, de moi-même, j'ai dit à mon fils, j'écoute, vaut mieux peut-être qu'on s'arrête de parler italien et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et en effet, l'enfant, il a parlé mieux, il sait s'exprimer, maintenant il a 7 ans, vraiment, il est très bien. Mais j'aimerais bien, et quand je suis avec lui, le mercredi, je lui dis, écoute, il faudrait que tu parles italien, parce qu'en vacances, autrement, ils ne vont pas te comprendre, et tu vois, tu restes toujours dans un coin. Alors, je lui parle italien, je lui dis, réponds-moi en italien. Mais est-ce que c'est bien qu'il insiste ou pas?
Ah. Alors, allez. François Bauer, pardon, François Bauer, je vous ai tous mélangés. François Grosjean, d'abord, je trouve étonnant ce diagnostic du bégaiement, identifié comme étant celui d'un conflit entre les deux langues. Est-ce que vous allez dans ce sens-là déjà?
Écoutez, si on avait fait cette émission de radio il y a 50 ans, vous ne seriez pas étonné, parce que il y a malheureusement pas tellement d'années de ça. J'ai vécu ces années. On mettait tous les troubles du langage possible sur l'enfant bilingue. Maintenant que nous avons fait des études et qu'il y a suffisamment de recherches sur le bilinguisme, on sait qu'il n'y a pas plus de bégaiement chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingue. Donc les pourcentages sont les mêmes. Il n'y a pas plus de troubles psychologiques, neurologiques chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues. La proportion est la même. Alors, je ne dis pas que dans ce cas, il n'y a pas eu bégaiement, n'est-ce pas? Peut-être. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire traiter le bégaiement. Mais ça ne provient probablement pas ou certainement pas du bilinguisme. Quant à cette famille, ce cas, qui est très intéressant, ils ont malheureusement arrêté l'italien, parce que rappelez-vous, un bégaiement peut être passager aussi, n'est-ce pas? Mais bref, ils ont arrêté de parler italien, mais maintenant l'enfant n'a que 7 ans, et moi je conseillerais, parce que ça, l'italien semble être important dans sa vie, de sa vie de famille étendue, qu'on reprenne un peu l'italien, d'abord au niveau réception, et ensuite au niveau production, lors de séjours, etc. Et probablement que ce petit barrage de bégaiement sera surmonté. Abandonner une langue pour des raisons du type trouble du langage ou bégaiement,
ça n'est pas une bonne idée.
N'est plus du tout conseillé, disons par les chercheurs, les médecins et les orthophonistes, un tout petit peu éclairés sur ce qu'est le bilinguisme.
Brunetti, est-ce que votre petit-fils a cessé de bégayer aujourd'hui? Allô?
On a arrêté de parler italien, mais 3 ou 4 mois après qu'il a suivi, l'enfant, il ne bégayait plus. Avant, quand je lui demandais quelque chose, vous n'arrivez pas à répondre. Mais j'ai, et puis, il arrête, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Petit à petit, moi, je lui parlais après français, et cet enfant, il n'a plus fait ça. Il s'exprime bien, il n'a plus bégayé. Il s'exprime même, si vous voulez bien, autant que langue et autant que sujet.
Bon, en tout cas, vous avez entendu le conseil de François Grosjean. Vous pouvez tout à fait lui reparler en italien. Au contraire, vous y êtes même encouragé. Barbara Abdelila Bauer.
En ce qui concerne le bégaiement, encore faut-il voir est-ce que c'était un vrai bégaiement ou est-ce que cet enfant cherchait juste ses mots en italien parce qu'il parlait moins bien l'italien.
Alors ça,
que
c'est intéressant.
Français.
Alors est-ce qu'il cherchait juste ses mots parce que l'italien n'était quand même pas sa langue forte, selon vous, Brunetti, ou bien c'est que il était vraiment perturbé? Allô?
Mais n'a jamais parlé italien, donc il répondait à tout ce que, c'est-à-dire il faisait tout ce qu'on lui disait parce qu'il comprenait très bien, il continuait à comprendre, mais il s'exprimait en français, en bégayant, en français.
En bégayant en français. Ok. Bon, mais c'était peut-être une sorte de petit conflit où l'enfant ne savait pas trop. Vous savez, c'est pas le fait qu'il soit bilingue, c'est le fait que parfois les enfants sentent une certaine pression de la part du parent, des parents, des grands-parents. Ils savaient pas trop quelle langue je dois choisir. Vous voyez, parfois, il y a des moments de stress comme ça où l'enfant bégaye quand il a 2 langues. Ce qu'il faut qu'on se conseille, c'est de rester calme. être patient avec l'enfant, le laisser chercher ses mots, ne pas relever qu'il bégaye, continuer à parler chacun sa langue avec l'enfant, tranquillement, et le laisser lui répondre dans la langue dans laquelle il le souhaite, et même en bégayant, et ça va passer.
Très bien, merci beaucoup Brunetti pour votre confiance. Vous avez quelques conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles et que vous les appliquerez et vous ferez une petite bise à votre petit-fils de ma part.
Merci beaucoup.
Belle journée à Paris. Les voisins, vous êtes nombreux à vouloir parler, donc je vais vous accueillir les uns après les autres et demander à nos deux intervenants de répondre le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous répondre le plus nombreux possible. Alors on va à Bamako avec Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Anatoly.
Comment ça va à Bamako?
Ça va très bien, je merci.
Alors vous avez un fils de 12 ans.
Oui, oui.
Vous êtes malien et la maman de votre fils est burkinabé.
Elle est burkinabé, tout à fait.
Et votre fils parle trois langues.
Il parle la langue de la mère au Burkina.
Oui.
Et une fois, il vient en vacances au Mali ici.
Mm-hmm.
Il parle le Bambara aussi, qui est la langue...
Donc il parle moré, la langue de sa maman, le bambara qui est votre langue, et il parle le français.
Il parle le français parce qu'il va à l'école.
Et il le vit bien? Ça se passe bien?
Ça se passe très bien. Donc il y a des fois, moi aussi, bon, moi je parle un peu le moré, bon, pas trop quoi. Donc quand je parle qu'il y a un mot qui est mal passé, lui-même il essaie de corriger ça pour moi.
Alors, c'est votre fils qui vous corrige dans vos tentatives d'expression en moré.
Voilà, tout à fait. Il me dit que ce mot-là ne dit pas tout à la présence des femmes.
c'est plutôt signe d'une éducation réussie, non, Barbara oui, Delila Bauer?
Oui, oui. Mais c'est déjà une très bonne chose que le papa parle aussi la langue de la maman.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Justement,
oui.
Il soutient, donc il et le fils voit que cette langue a un sens, pas uniquement, c'est pas juste une langue secrète entre maman et l'enfant, mais papa aussi il participe. Et puis ça, c'est un plaisir pour l'enfant de corriger son père. Il est pas dupe. Il sait très bien que le père a une autre langue. Et voyez, dans des pays comme le Mali ou dans d'autres pays d'Afrique, ce bilinguisme dont on parle, dont on fait tant de problèmes ici en France, c'est quelque chose de naturel. Et je suis à la limite, on peut être jaloux de cette manière heureuse de vivre le contact de différentes langues qu'on a dans d'autres pays ou d'autres continents que le nôtre. Alors que pour nous, ça a l'air tellement difficile et je pense, bon, je vais faire rapide.
Oui.
Je pense que c'est vraiment très très bien d'avoir plusieurs langues et de maintenir ces langues-là.
Bravo Charles, il faut maintenir le cap et faire en sorte, n'est-ce pas, je parle sous le contrôle de François Grosjean et Barbara Abdelila Bauer, faire en sorte que les trois langues gardent ce bon niveau jusqu'à l'âge adulte, mm-hmm. n'est-ce pas, François Grosjean?
Oui, mais vous savez, les langues sont des choses vivantes et on ne peut pas savoir comment un trilinguisme d'enfance
peut évoluer.
Se développera et pourra évoluer. Et ce qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent, si une langue perd un peu de son importance, est utilisée un peu moins,
oui.
il y a une sensation de perte, il ne faut pas non plus se sentir coupable, n'est-ce pas? Ça fait vraiment partie de la vie. Moi-même, j'ai vécu par des dominances de langues différentes. J'ai presque perdu ma langue paternelle, en fait. Et je suis revenu dessus. Donc, il ne faut pas non
C'est
plus
une
penser
matière
que
vivante.
Ça va être gravé pour le reste de sa
D'accord.
vie.
D'accord, ça va, ça vient. L'essentiel étant de l'entretenir. Cap sur Lubumbashi, en République démocratique du Congo, avec Percy. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Percy.
Bonjour, Anastasie.
Comment ça va?
Ok, bon. Oui, ça va très bien. Et bonjour aussi à tous les voisins et toutes les voisines, ainsi qu'aux invités sur le plateau.
Alors, racontez-nous bonjour. Votre histoire de langue.
Oui, ok. On a un problème ici. Ça me paraît un peu étonnant, mais c'est un peu normal. Je vais avoir un peu plus de précision. On a une cousine ici qui nous vient du village.
Oui.
D'abord, elle est née en Bandundu, dans notre village natal. Elle est née là-bas, elle va avoir 13 ans, c'est bientôt. Et elle est née à Kinshasa, c'est en 2010, à la capitale.
Oui.
Dès qu'elle est venue, elle savait déjà deux langues. Donc, les langues qu'elle a apprises au village depuis qu'elle était née, c'est le Kinyanzi et le Kikongo, c'est nos langues du Bandundu.
Oui.
Elle a appris ça de sa naissance. Et maintenant, elle est venue à Kinshasa, c'était en 2010. Elle a appris rapidement le Lingala et le français parce qu'elle étudie aussi à Kinshasa. Elle a appris le lingala et le français très rapidement. Elle a maintenant 4 langues. Et pour l'instant, on est avec elle ici parce que je suis en Lubumbashi. Je suis assis avec elle. Elle a fait 47 jours, c'est depuis le 21 décembre qu'elle était ici. Elle s'adapte déjà facilement au Kiswahili parce qu'en Lubumbashi, on parle plus le Swahili. C'est la langue qu'on parle ici à Lubumbashi.
Oui.
Elle s'adapte facilement au Swahili. Mais ce qui m'étonne et que, ce qui nous étonne, cette fille-là, depuis qu'elle était venue à Kinshasa en 2010, il y a des langues peut-être comme le Kikongo qu'elle parlait déjà, les gens les connaissent à Kinshasa. Mais le Kiyandi, c'est une langue qu'on parlait immédiatement, qu'on parlait directement au village.
Oui, qu'on ne parle pas à Kinshasa.
Elle a gardé
le souvenir de cette langue-là, même en ne la pratiquant pas.
Elle a oublié cette langue-là jusqu'aujourd'hui, parce que sa mère est au village là-bas. Si elle cause avec sa mère au téléphone, elle cause toujours en Kiyandi. Elle n'a jamais oublié même un mot de Kiyandi. C'est depuis 2010 qu'elle a quitté le village.
Ça fait 4 ans, oui.
Elle va avoir maintenant 5 langues.
Très bien. Et ça vous surprend?
Maintenant 5 langues.
Et ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça me surprend. Ok, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je parle très bien le français, le lingala et le kikongo. J'apprends aussi le swahili et l'anglais. Mais depuis que j'ai quitté Kinshasa, je suis ici en tournée. J'essaie un peu d'oublier le kikongo parce que je n'ai pas vraiment dit tous les gens que je peux parler avec le kikongo.
Donc vous êtes étonné qu'une enfant arrive à maintenir ces langues-là à niveau. On va demander à nos deux invités ce qu'ils en pensent. François Grosjean, est-il surprenant qu'une enfant de 13 ans se souvienne 4 ans plus tard d'une langue qu'elle a apprise ailleurs?
Pas vraiment, mais dans ce cas, dans ce témoignage tout à fait intéressant, merci monsieur, il y a deux choses qui m'ont frappé. Tout d'abord, qu'elle parle cette langue avec sa maman.
Oui.
Donc, il y a un lien émotif.
Absolument.
Très fort, n'est-ce pas? Et deuxièmement, monsieur n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il y a une certaine fréquence aussi d'utilisation de cette langue. Et troisièmement, il y a ce besoin. Donc, avec un besoin de devoir parler telle langue avec sa maman, avec l'envie de parler cette langue avec sa maman et peut-être une certaine fréquence de téléphone, ça ne me surprend pas du tout que cette langue soit encore tout à fait vivante. Si on devait creuser un tout petit peu, peut-être que cette langue ne couvrirait pas tous les domaines de la vie de cette jeune fille, n'est-ce pas? Mais pour la conversation de tous les jours familiale avec sa maman, elle est toujours vivante. Donc non, je ne suis pas surpris.
Allez, une dernière voisine, Marie, nous allons à Nairobi. Bonjour Marie.
Bonjour Anastasie.
Alors vous êtes francophone, Marie?
Oui, je suis belge francophone. Mon mari est rwandais anglophone.
Oui.
Et nous vivons au Kenya et c'est vrai qu'on a 2 enfants, mais bon, la deuxième, elle parle pas encore. Mais notre aîné, Sacha, j'étais un peu désespérée. Je lui ai toujours parlé français depuis la naissance. Mais étant dans un environnement totalement anglophone, c'était pas évident. Il me répondait toujours en anglais. Du coup, j'avais tendance moi aussi à partir sur l'anglais régulièrement. Mais je voulais témoigner parce qu'il faut vraiment s'acharner. Parce que récemment, nous avons passé un mois complet en Belgique. Et là, j'ai été étonnée de voir à quel point ce français est bon. Et on est arrivé à un point où même maintenant, si je lui parle en anglais, il me répond en français.
Bon.
Donc il faut vraiment que les parents, même si on est dans
persévérer.
Un environnement où il n'y a personne d'autre qui parle notre langue, il faut persévérer parce que je crois que dans leur cerveau c'est là en fait. C'est vrai que quand l'environnement n'est pas favorable, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'utiliser cette langue-là, mais quand même ils l'ont intégrée. Et donc il faut bien persévérer. Je pensais surtout à ce monsieur qui appelait de Detroit.
Oui.
Il faut vraiment qu'il persévère à parler à son fils en anglais, c'est important.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Marie. Je vais vous laisser réagir, Barbara Delila Bauer. Et puis ensuite, on donnera le mot de la fin à François Grosjean. Merci beaucoup, Marie. Belle journée à vous, à Nairobi.
Tout à fait, Marie a complètement raison. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège et répondre dans la langue de l'enfant. C'est-à-dire, si l'enfant ne vous parle pas dans votre langue, ne tombez pas dans ce piège et répondez, mais continuez à lui parler votre langue. Dans le cas de Marie, c'était le français, oui. La langue minoritaire. Et ça, c'est une tentation qu'ont les parents quand l'enfant rentre de l'école, il parle la langue de l'école et puis le parent va tomber dans ce piège et parler cette langue. Donc il faut continuer à parler sa propre langue.
François Grosjean, un dernier mot, rapide.
Très court, d'accord.
Oui, s'il vous plaît. Allô?
Oui, oui, je vous entends.
Oui, votre mot de la fin.
Ben écoutez, je crois que je vais citer Tahar Benjemoun,
oui,
qui est un bilingue très connu, biculturel.
Qui est écrivain, oui.
Qui dit, je suis heureux d'appartenir à deux pays, deux cultures, deux langues, et je vis cela comme un enrichissement permanent.
Merci beaucoup à vous deux. François Grosjean, vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, Parler plusieurs langues, Le monde des bilingues chez Albin Michel. Et Barbara Abdelila Bauer, Le défi des enfants bilingues, grandir et vivre en parlant plusieurs langues. C'est aux éditions de La Découverte. Toujours excellente maison d'édition. Merci à vous deux. Donc merci infiniment à vous les voisins. Vous avez été très nombreux à témoigner. Pour les voisins français, le salon Expo Langue a lieu en ce moment et jusqu'à demain 18h. Pas loin des studios de RFI d'ailleurs. Porte de Versailles, pavillon 4-1. Merci à l'équipe 7 milliards. Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malet-Solard, c'est Didier Chérouse. Lundi, vous retrouverez Emmanuel Bastide qui parlera avec vous des métiers à la marge, dame pipi, coiffeur sans papier, un sujet passionnant. Je vous souhaite une très bonne journée, les voisins, à l'écoute de RFI. J'ai pris grand plaisir à échanger avec vous.
Écho d'ici,